pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Eric Gore, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Donc oui, moi c'est Tom Joe. Et alors qu'est-ce que j'ai comme activité? Donc j'ai une activité de... avec le temps, j'ai fini par faire de plus en plus de journalisme, d'enquête, mais c'était pas du tout une idée comme ça. Un jour j'ai rencontré le journal La Brique à Lille. Voilà, un journal d'information voilà, associatif qui existe toujours. Et depuis, j'ai continué à faire de l'enquête principalement. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et ensuite, j'ai aussi, par cet intermédiaire-là, rencontré un groupe avec lequel je me suis mis à beaucoup travailler aussi ensuite, c'est Pièces et Main-d'œuvre. Et j'ai rencontré mon camarade Modeste Richard à l'occasion d'une interview que j'avais faite de son groupe d'éditeurs, de petits éditeurs qui s'appelait Pierre Fiction, qui n'existe plus. Voilà.
On était une bande de... Je suis illustrateur, graveur. Et on était une bande à vouloir faire des petits livres gravés, enfin, avec une couverture gravée, des textes qu'on produisait, puis aussi de la réédition. Voilà, on voulait faire des choses qui étaient dans l'esthétique, un peu des cordels brésiliens et des petits livres pas chers, en fait, c'était un peu ça l'idée, avec des petites diffusions autour de nous et des ventes qui s'organisaient lors de lectures publiques.
Nous recevons aujourd'hui Tom Joe et Modeste Richard pour le livre, entre autres, que Tom Joe publie qui s'appelle. Attention Serge.
Noir, c'est...
Il est incorrigible. Nord, c'est noir.
Nord, c'est noir.
Nord, le nord, ils viennent du nord. Donc nord, c'est noir.
Moi, j'aimais bien noir.
Et c'est
noir.
Publié aux éditions...
Service compris.
Serge me suggérait de revenir sur une entreprise fort méconnue du public français, mais pourtant importante, qui s'appelle la SAFT.
Oui, la Société des Accumulateurs Fixes et de Traction.
Et non, t'es savant, hein.
Donc, les accumulateurs des batteries, les batteries fixes, qui peuvent être, je ne sais pas où...
Sur une voiture
Oui, voilà, et de traction, non, pour les automobiles. Donc, c'est une entreprise centenaire qui a été créée en 1917-18, par là. Et qui est aujourd'hui... à l'époque, il y avait plusieurs entreprises de batteries. Il y avait Vonder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Le Clancher. Enfin, il y avait plein d'usines comme ça. Et finalement, c'est la SAFT, après plein de trucs, qui a fini par tout récupérer, qui est aujourd'hui la grosse usine de... La grosse entreprise française de piles et batteries, qui appartient désormais à Total. Voilà, ça doit faire 10 ans maintenant que l'entreprise appartient à Total. Ouais. Et en fait, donc elle équipe notamment l'armée. Elle a une activité civile et une activité militaire depuis l'origine. Les tanks, les sous-marins et les satellites et j'en passe. Voilà.
Leader mondial de l'aviation, d'équipement de batterie,
de batterie
militaire. Hein,
voilà, tout à fait. Et notamment donc l'armée française, mais aussi les armées anglaises, américaines, suédoises. Enfin voilà. Donc c'est une entreprise qui est effectivement méconnue parce que elle bosse principalement pour des entreprises elles-mêmes. Elle travaille pas moins pour le grand public. Et donc moi, je m'y suis intéressé parce que ouvrait, pas très loin de Lille, la première Gigafactory, on appelle ça comme ça désormais, usine de batterie pour voitures électriques. Et moi, je connaissais pas la Saft, alors je me suis intéressé à cette boîte. Et en lisant sa page Wikipédia et en lisant sa page historique sur le site de l'entreprise, on se rend compte assez vite qu'il y a des trous étonnants. Et quand on, enfin, le plus étonnant, c'est qu'en général, ces trous, ils arrivent entre 36 et 48. Il y a des trucs comme ça. Et puis là, comment est-ce qu'elle est née, cette boîte, vers 17, 18, 19? Il n'y a pas trop d'infos là-dessus, c'est assez nébuleux et tout. Donc en fait, il y a suffisamment d'indices qui
donne envie de creuser.
Et tu comprends déjà qu'il y a une embrouille, quoi. Voilà. Donc, je suis allé aux archives nationales, quoi. J'ai fait assez bêtement, quoi. Et je suis tombé sur plein de trucs vraiment pathétiques de leur part, quoi. Déjà, donc la création. Donc, il y a eu une boîte avant qui s'appelait la Société des accumulateurs alcalins. Un truc comme ça. La SI2A. Qui n'a pas été créé par le mec dont on dit que c'est le créateur, mais par son père. Donc pas par Charles Victor Herold, mais par son père dont j'ai oublié le prénom. Et qui est aujourd'hui complètement inconnu, mais à l'époque il n'est pas inconnu, c'est le représentant en France de la banque JP Morgan. Mmh. C'est ça ? Mmh. Je dis pas de bêtises ?
Herman Peter
Herold.
J'avais noté.
Ouais, voilà.
Le père.
Donc c'est pas un inconnu du tout, le mec est richissime. Et il a envoyé son fils aux États-Unis chez Edison pour faire son stage de fin d'études de troisième, quoi. Il y a des trucs comme ça qui apparaissent et en fait ça paraît surprenant. Comment ça se fait que ce mec-là il se retrouve là? Il crée une boîte incroyable en 1917. L'armée française lui commande des batteries pour des tanks alors qu'il est censé être complètement inconnu. Il a pas d'argent, il est inconnu de personne. Et puis en fait on comprend que en fait son père est le représentant en France de la Morgan, que la Morgan c'est le principal bailleur en temps de guerre et même tout le temps de l'armée française, et que voilà, il a déjà ses entrées auprès de l'armée, auprès de Renault qui est le fabricant
de chars
et tout le tralala. Et il y a un passage vraiment merveilleux. Donc moi j'apprends, je découvre ça en tombant sur des comptes rendus de discussions au Sénat. Où il parle de fausses informations qui ont été envoyées par télégraphe à l'armée française depuis le Rhincy, depuis une entreprise de batterie et par des mecs.
La batterie est en danger.
Ouais. Par des entreprises de batterie, et en fait il s'avère que son père, alors j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais soit lui. C'est ce qui est possible, parce que donc eux c'est des Suisses allemands, plus ou moins naturalisés. Le père oui, le père non, mais l'enfant oui. Enfin bref. Et en fait, donc il y a des fausses informations qui sont envoyées à l'armée française depuis cet endroit-là via le télégraphe de l'armée qui passe par au-dessus de l'usine. Donc ils ont saboté le truc. Donc je sais pas si c'est des gens de l'usine ou si c'est le patron lui-même, mais au début de la guerre en 14, ils envoient des fausses informations au quartier général, quoi. Donc l'armée réquisitionne l'entreprise et lui demande de fabriquer des bombes au phosgène, je crois, un truc comme ça. Parce que eux, les entreprises de piles, c'est une entreprise chimique en fait, c'est une entreprise électrochimique. Donc ils ont plein de trucs qui peuvent potentiellement être super efficaces en temps de guerre. Et donc la boîte est réquisitionnée pour fabriquer des bombes chimiques. Voilà. Et ils finissent par clôturer cette boîte qui est coupable à la fois de fabriquer des bombes chimiques et de nuire aux intérêts stratégiques de la France en temps de guerre, au profit de la puissance qui attaque. Donc ils sont obligés de clore cette boîte et ils créent la SAFT. Ils créent la Société des accumulateurs fixes et de traction. Paraît-il donc pour fabriquer des batteries de tanks et de camions, étant donné qu'on a du mal à accéder au pétrole, quoi, pour Renault. Voilà, c'est comme ça que se crée cette boîte. Ensuite, elle a sa propre vie pendant l'entre-deux-guerres. Elle est rachetée par la CGE, qui est la grosse boîte d'électricité à l'époque. Et puis...
Compagnie Générale d'Électricité.
Compagnie Générale d'Électricité, tout à fait, ouais. qui existe toujours, qui s'appelle maintenant Alcatel-Lucent.
Ouais.
Voilà.
Et la deuxième guerre, quand même, qu'est-ce qui s'est passé?
Et alors, la deuxième guerre, donc là, c'est...
J'ai une petite idée, ayant lu un peu.
Donc là, c'est fabuleux. Mai-juin 40, la France se fait dérouiller. Les Parisiens quittent, fuient la ville, fuient Paris à toute berzingue, y compris les salariés de la SAFT. Et au mois de juillet, ils reviennent dans leur usine. Et ils voient en fait que l'usine est sous contrôle d'un commissaire allemand. Commissaire allemand, en fait, il le connaissait déjà. Corbin Alkinger, il s'appelle. Il le connaissait déjà. En fait, lui, c'est le patron de la boîte allemande, l'AFA, qui fabrique les piles Varta. Et donc, désormais, ils vont devoir travailler pour lui. En bonne intelligence avec... avec
le, ce qu'on appelle intelligence avec
l'ennemi. Ouais. En bonne intelligence avec entre leur patron Herold et lui à Kinger. Quoi. En fait, ils se connaissaient parce qu'ils s'étaient déjà répartis les marchés en 36, 37, 38. Ils s'étaient répartis les marchés. L'AFA, en fait, n'allait pas sur le marché français ni sur le marché colonial français. Ils laissaient tranquille. Et la SAFT n'allait pas sur le marché allemand et puis les États-Unis et tout ça. Enfin, ils s'étaient plus ou moins répartis le truc. Sachant que le grand patron de l'AFA est un nazi notoire. C'est un des premiers financeurs du NSDAP en 1931, 32, 33. Enfin, voilà, qui s'appelle Kant. Q-U-A-N-D-T. Voilà. Donc en fait, les Herold, qui sont tous germanophones, et qui avaient déjà travaillé en Allemagne, etc., étaient des bons potes de ces nazis, de ces industriels nazis, quoi. Et en fait, donc la boîte va se retrouver à travailler avec un commissaire allemand qui leur crée pas trop de tort, au contraire, qui leur amène des marchés pendant tout le long de la guerre, quoi. Voilà. Donc ils vont fabriquer des batteries pour l'armée allemande, sachant très bien à quoi servent ces batteries, puisque tout le monde sait à quoi servent les batteries de la Luftwaffe. Pendant ce temps-là, l'AFA, eux, ils ont aussi leurs propres usines en Allemagne. C'est des camps-usines, en fait. Ils ont deux camps. Ils ont deux camps-usines où ils font travailler, dans lesquels ils font travailler les
prisonniers.
Les prisonniers, voilà. L'espérance de vie dans un camp de l'AFA, c'est à peu près 3 mois, je crois. Si je me souviens bien, entre 3 et 6 mois. Donc les mecs travaillent du manganèse, ils en respirent, et puis ils crèvent assez vite de ce qu'ils ont respiré. Voilà. Donc tout ça, forcément, la SAFT le sait, quoi.
Oui, en plus, il y a un détail assez horrible, sur la période, il y en a plein, mais quand, vers la fin, là, quand ils font une espèce de marche à la mort, là,
ouais.
Pour aller, je ne sais plus, vers quel autre camp, etc. Et finalement, ils se réfugient dans une grange, je crois, où on les ferme dans une grange et on met le feu à la grange, comme ça, il n'y a plus de problème. Quoi.
Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ils récupèrent les gens de ces deux camps qui fabriquaient des batteries, plus ceux qui fabriquaient les V2. Donc là, c'est le camp de Dora, puisque les batteries allaient dans les V2. Et ils prennent tous les prisonniers, effectivement, ils les mettent dans une grange, ils ferment à clé, ils mettent le feu. Ouais. Donc il y a à peu près un peu plus d'un millier de morts à quelques jours de la reddition de l'Allemagne. Quoi. Donc des prisonniers de l'AFA. Et donc à la fois la famille Herold, à la fois la famille Kant, sont en France et en Allemagne jugés pour leur fait et blanchi, quoi. Enfin, excusé. Et ils continuent à travailler. Et donc, la famille Kant, aujourd'hui, qui est l'actionnaire principal de BMW, la descendante, c'est la femme la plus riche d'Allemagne aujourd'hui. Elle n'a jamais été inquiétée. Et la famille Herold, pareil, n'a jamais été inquiétée. Ils ont eu leur procès. Le mec a fait un an de prison. Et puis, à la fin, il a été gracié parce qu'il aurait, soi-disant, été contraint de travailler pour l'Allemagne. Bon.
Oui, en plus, ce qui est important, c'est de savoir ça, mais si, je pense que les auditeurs ne sont pas dupes, c'est pas le seul exemple. Je sais que mon père avait beaucoup travaillé là-dessus à l'époque, et sans qu'il ait accès forcément à tous les documents possibles, mais je ne dis pas que c'était forcément aussi horrible que ce que tu décris, mais bon, la plupart sont. Non seulement sont qui ont traversé les mailles, mais en plus, on les a retrouvés après, quoi. C'est ça qui est en plus épouvantable. Au moins, si j'étais retourné à la base, si je puis dire. Mais non, non. Ça... Et bon, tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Renault qui a été nationalisé.
Le mec était déjà mourant. Ils sont, a priori, il s'est fait buter dans sa cellule. Mais bon, le mec, enfin, il n'y avait plus... Oui, Renault a été nationalisé, les héritiers ils l'ont eu dans le baba, mais bon, à part lui... Il y a eu des entreprises horribles, hein. L'entreprise Ugine, par exemple. Donc je découvre ça, pareil, qui avait un site en Picardie, qui fabriquait du Zyklon B, qu'ils envoyaient en Allemagne. Enfin, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. Et même chez les historiens, moi je connais pas bien le milieu des historiens, mais c'est super compliqué de faire reconnaître, même dans le milieu des historiens, qu'en fait, que le niveau de collaboration chez les industriels était, était non seulement énorme, mais qu'ensuite ils ont tous été blanchis. Donc on connaît tous voilà, les intellectuels, collabos, les artistes. On manque pas et à juste titre de les afficher, mais s'en prendre à un artiste ça coûte pas cher. S'en prendre à un industriel, le patron de la Saft ou patron d'Ugine, de Kuhlmann, de Prouvot, de machin, là c'est autre chose là. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Et donc ils ont tous passé l'épuration tranquille.
Oui, c'est une période extrêmement importante. On va en parler d'ailleurs sur les suites, non seulement sur l'aspect industriel, l'aspect social, l'aspect humain. Il y a énormément de choses qui se sont passées et on s'aperçoit que même encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'accéder aux faits. Enfin, bon, il y a eu des choses qui ont été dites, bien entendu. Moi, je sais que mon père continue à travailler sur cette période. Enfin, lui, était dans les maquis du Limousin, t'es donc ni aligné sur le Parti communiste, ni aligné sur De Gaulle. Dans tous les milieux, y compris dans le milieu agricole, c'est là qu'on a relancé complètement l'industrialisation. Enfin, c'est une période. Bon, c'est pas tout à fait le sujet, quoique. Enfin, en tout cas, à travers l'aspect que tu décris, ça en fait partie. Mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à garder. C'est très bien que vous ayez eu l'occasion de faire une enquête un peu précise là-dessus, quoi.
Ouais, je suis tombé dessus un peu par hasard, quoi. C'est juste j'ai tiqué quand j'ai vu que encore maintenant je suis retourné là il y a pas longtemps en me disant bah peut-être avec la sortie du bouquin ils se sont peut-être dit que effectivement mettre un trou de 10 ans mais non, même pas, ça a pas bougé, quoi. On peut toujours aller sur le site, on tape sur le site de la Saft, saft.com, mon historique, enfin l'historique, et puis on voit
mais donc ils n'ont pas réagi.
Non, moi je l'ai envoyé au syndicat aussi. Au début, j'avais un petit peu de lien avec la CGT, de la Saft. Et puis ensuite, ils ont arrêté de me répondre. Alors, je ne sais pas trop. La seule personne avec qui j'ai eu une petite une correspondance, c'est avec le descendant, le petit-fils de Louis Navarin, qui était ingénieur, qui a inventé, qui a mis sur pied les batteries pour les sous-marins d'attaque français. À l'époque, c'était le Ouessant. Voilà. Et le mec a été décoré et tout ça. Donc, il y a son petit-fils qui m'a écrit parce qu'il connaissait pas vraiment bien l'histoire de son grand-père. Et en fait, moi, j'avais toutes ces dépositions à son grand-père, qui a témoigné, qui s'est fait virer de l'usine en 43, pardon, et qui a témoigné contre son patron pour dénoncer ses faits de collaboration, quoi. Et voilà, donc c'était rigolo. Mais c'est la seule personne qui, de près ou de loin de la Saft, avec qui j'ai eu des contacts.
Et donc cette Saft qui prospère dans les guerres, qui passe au travers des mailles du filet, qui a partie liée avec toutes les grosses capitalisations boursières, industrielles de France, bon, elle a connu sa petite vie et donc elle arrive, elle s'approche du troisième millénaire, donc avec des activités nouvelles ou une expansion nouvelle.
Tout à fait. Donc ça commence comment? Ça commence, bon là c'est pareil, j'ai pas sous les yeux, mais ça commence vers 2020-21. On a Emmanuel Macron, le président de la République française, qui va sur le site de l'usine Saft en Charente. Et qui fait un grand discours sur l'industrie verte. Et en fait, il va lancer tout un grand programme d'industrie verte qui va ensuite devenir France Relance, enfin voilà. Et en disant, donc il y a tout un discours, on peut allier l'industrie et l'écologie, la transition, le développement durable, bon.
Le fameux en même temps.
Oui, voilà. Donc il fait ça sur le site de la Saft. Parce que il existe un programme européen qui est en train de se discuter avec les Allemands, avec l'Europe, avec la Belgique aussi un peu, de lancer ce qu'ils appellent à l'époque, ce qu'ils appellent encore à l'époque, l'Airbus des batteries. C'est un peu le thème, enfin le mot qu'ils ont, enfin l'expression. Et il va y avoir beaucoup d'argent public pour lancer cette industrie des batteries et des voitures électriques de la transition. Donc il fait ça depuis la Saft. Et il annonce, est-ce que c'est à ce moment-là, je ne sais plus bien, ou si c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas loin après, la création d'une première gigafactory pour la France et donc pour le Nord, qui est donc un partenariat entre la Saft, Total, et Stellantis et Mercedes, pour équiper des voitures.
Et pourquoi on appelle ça Gigafactory ? J'ai la réponse, j'ai lu le livre.
Et alors pourquoi on appelle ça Gigafactory ? Parce qu'elle est censée fabriquer 1 gigawattheure de batterie, quoi. Au départ, c'est Elon Musk qui a aussi un peu le sens de la formule, sinon il n'en serait pas là, mais. Qui lance ce mot-là, et ensuite c'est devenu un mot un peu. On fait une grosse usine, vaguement dans l'électricité, la transition, on appelle ça une Gigafactory, quoi. Il y a une première annonce, ça se passe pendant le Covid. Il y a un débat public qui donc se passe sur Internet. Moi je passe un petit peu à côté à ce moment-là. Et la conclusion du débat public intervient juste à la fin du confinement. Je me retrouve à cette conclusion. Là se trouve devant moi donc le préfet, le représentant de la région, le représentant de toutes les usines automobiles, et ils annoncent que on va construire une gigafactory, voilà, qui va coûter, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais plus, sur 2 milliards d'euros, l'État met 850 millions, je crois. Ouais. Donc l'État met un peu plus d'un tiers d'argent directement comme ça, gratos, quoi, de financement de l'usine. Et donc là, je commence à tiquer, quoi. C'est des montants faramineux. Enfin, quel industriel, quelle PME, quelle entreprise voit un tiers de ses financements, de ses investissements, et surtout avec ces sommes-là, et surtout des gens comme Total, Stellantis et Mercedes, qui ne sont pas des gens qui sont dans le besoin, particulièrement. Avoir autant d'argent public, enfin c'est du pillage, quoi. Et donc je m'intéresse et je commence à enquêter et à publier les premiers articles sur cette première Gigafactory. Et donc par la suite, donc il va y en avoir une deuxième, et puis une troisième, une quatrième, et aujourd'hui il y en a cinq. Et à chaque fois c'est à peu près le même procédé, c'est-à-dire que l'État met à peu près un tiers de l'investissement d'origine, quoi. J'avais calculé, par exemple, pour la première, ça fait 10 ans de salaire. C'est-à-dire, il y a 2000 salariés, ils annoncent 2000 salariés, ça fait 10 ans de salaire. C'est-à-dire que l'État aligne 10 ans de salaire pour les 2000 salariés. Enfin, c'est assez monstrueux.
Là, il y en a combien qui sont en fonctionnement ?
Alors, celle qui s'appelle ACC, elle est en fonctionnement, elle tourne, mais elle tourne tout doucement. Et les autres, elles doivent commencer là, début 2026. Ensuite, il y en a deux à Dunkerque, il y en a une qui s'appelle Vercors, elle est censée envoyer ses premières batteries début 2026. Et les autres sont encore en construction.
D'accord, je pense qu'on va faire une pause musicale avant de repartir dans le Nord.
À la chaîne, tout s'enchaîne sur un tempo violent. À la chaîne, tout se déchaîne en un balai suant. À la chaîne, les objets partent et reviennent sur un rythme branlant. À la chaîne, tes doigts peinent sur ces montages savants. Ton œil glisse souvent vers la pendule, mais ces aiguilles molles font que le temps recule. À chaque objet fini, tu te sens sali. C'est donc ça la vie, au rythme roulant du tapis. Serait-ce tes illusions qui glissent petit à petit pour s'envoler au bout quand la chaîne est finie. La chaîne, ambiance malsaine comme dans un enterrement. la chaîne, la mise en scène, manque de sentiment. À la pause déjeuner, tu écoutes tes compagnes qui parlent de malheur ou racontent des blagues. Bien sûr tu aimes, tu craques sur le nouveau contremaître, mais tu ne le connais pas. Est-il si bien que ça? Tu l'aimais bien aussi, le livreur de métaux. Il s'est vite envolé en te laissant un petit marmot. Ah, la chaîne, tout semble obscène, tout est temps, t'es temps. Ah, la chaîne, tout nous entraîne vers un trou béant. Petite avec tes poupées, je te voyais en princesse. Mais ta blouse n'a rien à voir avec ces robes enchantresses. Comment ta mère aurait pu imaginer que quand tu serais grande, tu allais la remplacer. Que le travail à la chaîne existerait encore. La chaîne méprisante de la vie à la mort.
Alors, on se faisait la réflexion hors antenne pendant la pause musicale que, eh ben, effectivement, le Nord était pionnier dans la décarbonation en France, puisque les puits de mine et les mines ont été fermés. Donc, bon, là, on a évité que le carbone s'extirpe du sous-sol. Et puis, ben, cette impulsion pionnière se poursuit aujourd'hui avec la mise en place des gigafactories pas encore par dizaines, mais donc on en est à 5, hein, d'après ce que tu nous disais.
Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, et la décarbonation, c'est quelque chose d'expérimenté déjà depuis 1989 et la dernière berline de charbon qui a été remontée au puits de mine de Liévin, exactement, sous les caméras. Et bref, en fait, cette décarbonation, elle commence déjà dès 1959. Dès 1959, on sait que il va y avoir une fin à l'exploitation du charbon.
C'est quand même, si je me souviens bien, 170 000 mineurs à l'époque.
Qu'il va falloir recaser.
Bah voilà.
Ouais. Et comment il s'appelle l'économiste qui est le ministre, j'oublie son prénom.
C'est pas Jeannet, non?
C'est Jeannet, voilà, ouais. Jean-Marcel Jeannet, qui est donc ministre de l'Industrie, qui voit arriver le pétrole, qui voit arriver le nucléaire, enfin le pétrole algérien, à l'époque la France est encore en Algérie.
Le gaz aussi.
Le gaz, dans les Pyrénées. Et puis comme la CECA est en train de... a ouvert le marché du charbon.
Qu'est la CECA pour les auditeurs?
La Communauté européenne du charbon et de l'acier. A ouvert donc le grand marché du charbon. Donc il y a du charbon en Allemagne, il y a du charbon aux Pays-Bas, en Belgique, et puis il y a peut-être encore des accords avec les États-Unis du plan Marshall. Il faut importer du charbon américain. Donc le charbon français étant quand même assez profond, petit à petit, déjà en 59 il commence à imaginer la fin, et dès 63 ils annoncent la fin du charbon pour 1985. Ça sera 89, mais bon, ils se sont pas gourés, voilà, à peu de choses près. Et donc, il faut préparer cette décarbonation, n'est-ce pas, dont on entend en parler tellement aujourd'hui. Et c'est donc l'arrivée, dans le Nord-Pas-de-Calais, de l'industrie automobile.
Ah.
Voilà, des premiers plans de reconversion, de revitalisation, voilà, qu'on subit tous les 30 ans. Voilà. Et on voit arriver Bridgestone, on voit arriver Toyota, on voit arriver... tous les équipementiers, qui va faire que la région est aujourd'hui, selon les chiffres, la première région automobile, je ne sais plus si c'est en ouvrier ou en chiffre d'affaires, enfin bon, voilà, grosse région automobile.
Mais ils s'implantent là parce qu'il y a du fric pour la reconversion, ou ils s'implantent là aussi parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a la sidérurgie, il y a tout ça, c'est un ensemble de raisons.
Ouais, voilà, c'est ça. Je fais un peu toute cette histoire-là. Effectivement, il y a la sidérurgie qui était déjà, qui était déjà là du fait du charbon. Le charbon est là, donc on fait fondre le métal. Voilà. Il y a le port de Dunkerque qui sert à ramener le minerai, le manganèse, etc. Notamment des colonies, quoi, à l'époque. Donc, effectivement, il y a une sidérurgie moderne qui a été reconstruite après la guerre avec de l'argent public. Donc, Usinor, Arcelor a été quasiment financé entièrement par de l'argent public, par le plan Marshall, le plan Monet et celui de la CECA. Donc c'est pour ça que l'automobile va aussi venir ici, quoi. Parce qu'il y a de la main d'œuvre. La main d'œuvre, elle est quand même assez docile. C'est pas non plus une terre particulièrement mouvementée, courageuse, dure au travail. Enfin, voilà.
Quelques décennies de dressage.
On fonctionnait. Il y a tout cet univers un peu coopératif de coron qui a bien bouché l'horizon mental de tout le monde. Donc au-delà de l'usine, il y a rien. Donc on peut y aller, quoi. Et puis le terrain est plat. Ça coûte moins cher en viabilisation. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que on va mettre ici les usines automobiles.
D'accord.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on racontait ça?
C'était la transition industrielle.
Donc, premier plan de décarbonation, c'est celui-là, en fait. On l'appelle le plan de reconversion. Et jusqu'à ce que, en fait, il y a aussi une date qui est importante, je le relève pas trop, mais en 1980, 81, 82, 83, il y a les réacteurs nucléaires qui arrivent à Dunkerque, qui font que de Gravelines, la plus grosse, la centrale la plus puissante d'Europe, après Zaporijjia. Mais il me semble que Zaporijjia a des problèmes. Mais c'est celle de Gravelines avec 6 réacteurs, et il y avait 4 réacteurs prévus, 2 autres prévus en Iran, qui ont été rapatriés suite à la révolution. Entre guillemets, en Iran.
Acteur sensible aux méduses, non, je crois que.
On n'a pas assez salué le travail des méduses dans le sabotage de l'usine là dernièrement. Mais on le fera. Donc ça fait quoi? Ça fait que il y a tous les éléments qui sont là aujourd'hui pour ce qu'on appelle la transition, la décarbonation. Il y a des usines automobiles, il y a de la main d'œuvre qui n'attend que ça, il y a du nucléaire à fond les ballons, il y a aussi énormément d'éoliennes terrestres.
Ils n'ont pas fait d'offshore, non?
C'est en projet, mais j'ai l'impression que ça patine un peu. Mais c'est la plus grosse région de production d'énergie éolienne. Et tout ça fait que donc il va y avoir ces 5 usines, ces 5 gigafactories qui vont arriver là, quoi. La région, Xavier Bertrand qui a la tête, il a aussi lui-même mis pas mal d'argent. Et c'est ce qui explique que ces usines viennent ici, quoi. Proximité de la sidérurgie, du nucléaire, de l'électricité pas chère, d'une main d'œuvre abondante. On n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de Bruxelles, on n'est pas loin de Londres. Enfin, géographiquement, c'est aussi intéressant, quoi.
Alors je vais poser la question du naïf. On pourrait se dire que c'est bien, quoi, tout ça, parce que quand même, les batteries pour que les voitures roulent plus au pétrole, donc moins de carbone. Donc c'est on est dans le troisième millénaire, on va dans la bonne direction.
Voilà.
Et pourtant, il y en a qui trouvent à redire à ce beau projet.
Pas beaucoup.
Trop peu.
Trop peu. Malheureusement, je pense être à peu près le seul, publiquement, c'est triste, mais à mettre opposé à ça. Pourquoi? Ça commence au départ par cette première usine. Donc j'y vais à cette fameuse concertation, j'ouvre les dossiers, machin, et je vois que l'usine, elle consomme l'équivalent en électricité d'une ville de 250 000 habitants. Enfin là, je tombe en fait sur des chiffres qui sont faramineux pour l'électricité. Donc la deuxième usine, Prologium, c'est l'équivalent de 800 000 habitants. C'est plus que la ville de Lille, c'est plus que la métropole lilloise. Chaque usine, et là maintenant il y en a 5. Et pour l'eau, c'est pareil. Et pour les minerais, j'ai pas les chiffres en tête, mais pour une voiture, il faut, pour une voiture électrique, pour une Zoé, j'avais fait le calcul, je sais plus, il faut 7 tonnes de lithium, 7 kilos de lithium, 12 kilos de manganèse, enfin, je sais plus, mais ça consomme une quantité quand même considérable de métaux qu'on va chercher, comme vous le savez, partout dans le monde, et qui sont extraites, même dans des conditions, horrible quoi. Donc je mets bout à bout la consommation électrique, donc nucléaire, électronucléaire, de ces usines-là, avant même qu'on ait rechargé les bagnoles, pour construire la Gigafactory, pour construire les batteries. La consommation d'eau, c'est pareil, il faut énormément d'eau pour faire ces batteries. Énormément de métaux. Je pense qu'on a là suffisamment d'arguments quand on est un écologiste pour ne serait-ce que peut-être se dire que...
Posons des questions.
Voilà, je sais pas. Ok, le CO2, je suis d'accord. Mais le CO2, c'est pas... est-ce qu'il faut choisir vraiment entre la peste climatique et le choléra nucléaire, quoi? Et, ou est-ce qu'on...
Est-ce que quand même, par rapport au sujet qui est important, de toute façon, plus que tu traites dans le livre, enfin en tout cas dans les textes que j'ai lus, il n'y a pas eu quand même entre les... Je ne sais pas pour défendre l'écologie en tant que telle, ni les écologistes, mais au tout début du mouvement, moi je sais que j'étais dans le mouvement anti-nucléaire, par exemple, il y avait des gens qui se revendiquaient l'écologie, qui étaient avec nous, qui étaient, apparemment relativement sincères. Enfin, tu cites, par exemple, dans ton livre, je pense, le Fédération nationale de l'environnement, je crois.
Oui, France Nature Environnement.
France Nature Environnement, qui dans les débuts, quand même, était un peu opposé, plus ou moins, enfin, à ses positions. Or, maintenant, c'est plus du tout vrai. Donc, y compris, enfin, sur on prend, enfin, je ne vais pas détailler là-dessus, mais les positions des Verts allemands, qui étaient plus ou moins pacifistes à l'origine, enfin, on voit ce qu'ils sont devenus. Donc, Là, ce que tu décris, là, il faut savoir dans quelle période c'est, quoi.
Alors, effectivement, parce que la voiture électrique, c'est un vieux rêve. Il y avait déjà des voitures électriques, j'en parle un peu, il y avait sous pétain.
Mais le problème, tu avais le problème de l'autonomie, notamment.
Ouais, voilà. Une fois que le lithium est arrivé, le lithium, ça a vraiment fait une rupture avec les autres batteries. On a plus d'autonomie, plus de puissance pour un poids, voilà. Donc c'est un vieux débat, la voiture électrique. Effectivement, il y a eu des écologistes qui se sont opposés aux voitures électriques dans les années 2000, mais pas beaucoup, hein.
Ah oui.
Mais France Nature Environnement, oui, j'avais repéré des trucs. Mais là, aujourd'hui, je parle...
Mais Greenpeace était pour.
Je pense qu'elle l'est toujours officiellement. Et aujourd'hui, non, zéro, quoi.
Ah oui, mais je le dis, il faut sauver le climat.
Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on nous a quand même pas mal formés à penser que le climat est la seule et grande et unique question écologique par laquelle on doit penser l'écologie, quoi. Et il y a tout un mouvement climat. Donc, j'en parle pas dans ce bouquin-là, j'en parle dans un autre article, mais qui est complètement financé par des acteurs de la transition, quoi. Et donc qui ont accompagné le mouvement, et donc les écologistes verts ont accompagné à fond, ils ont fait des cahiers d'acteurs, des contributions au débat public en faveur de la transition, quand bien même ils peuvent être contre le nucléaire officiellement. Une fois, je me suis retrouvé avec Marie Toussaint, qui était eurodéputée verte, qui est la leader de la dernière liste aux élections européennes, qui vient de l'association Notre Affaire à Tous, qui vient à Dunkerque, elle vient faire une conférence. Il y a le patron d'Engie, qui est un énergéticien, le patron de Vercors, les batteries, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, et elle, qui est verte, et qui disent exactement la même chose, il faut aller à fond dans la transition. Donc à un moment donné, quand même, je prends la parole, je lui dis, mais attendez, vous savez que cette usine, elle va consommer X 1000 gigawattheures, que par ailleurs, vous êtes censé être contre le nucléaire, enfin, il y a une espèce de contradiction... et elle n'a pas réussi, quoi, elle n'a pas réussi à s'en sortir, elle m'a sorti un truc, je sais pas trop, et après, elle s'est barrée assez vite. Et donc, en soulevant la question du nucléaire auprès des écolos, ça n'a pas marché. J'appelle le réseau Sortir du Nucléaire pour leur dire les batteries là, je leur envoie les chiffres, on ferait pas un truc. Je sais pas si ça a été discuté en CHSE ou je sais pas quoi, mais non, c'était niet, on parlait pas de transition, même au réseau, quoi. Et ensuite, on est arrivé à pour dire quand même le niveau de d'accompagnement pseudo-écologie du truc, autour des gigafactories, il y a plein d'usines qui se créent pour raffiner le lithium, pour récupérer les batteries et plus ou moins faire du recyclage, pour enfin bon, il y a tout un écosystème comme ils disent autour, et notamment il y a l'entreprise multinationale Rio Tinto. C'est quand même pas rien. L'entreprise Rio Tinto, elle est connue, c'est le troisième groupe minier mondial. On sait, enfin si on cherche, on sait que voilà, ces conditions d'extraction dans tel et tel pays, c'est affreux. Enfin voilà. Rio Tinto vient achète une vieille boîte de raffinage de métaux à Dunkerque pour faire du lithium. Il faut un lithium particulier, très pur, pour ensuite aller dans les batteries. Et la région Hauts-de-France. Verse une subvention de 250 000 euros à Rio Tinto. 250 000 euros, c'est pas grand chose. Enfin, merde, Rio Tinto, quoi. Est-ce qu'ils ont besoin de 250 000 balles? Et moi, comment je le sais, ça? Je le sais en défilant la page Facebook des Verts du Nord-Pas-de-Calais, du mec qui fait un discours en disant voilà, nous les Verts, on nous appelons à voter cette délibération, 250 000 balles pour la transition. Alors on sera vigilants, hein, attention, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, on va voir si le mec il trie ses déchets dans la poubelle jaune et tout. Hein. Mais quand même, 250 000 euros pour la transition, voilà, nous on est contents de. C'est incroyable. Donc des Verts financent Rio Tinto, les mecs ils ont les plus grosses mines de lithium en Argentine. Et ils viennent ici racheter des boîtes qui sont dégueulasses, qui ont tout saturé autour de Dunkerque en métaux. Enfin, c'est l'enfer. Et avec le tampon écolo. Et ça, c'est assez désespérant, quoi. Ça, c'est assez désespérant de se retrouver, d'aligner comme ça la consommation énergétique, la consommation d'eau, la consommation de minerais, les pollutions derrière, parce que c'est des usines qui consomment énormément de PFAS, les fameux PFAS, qui rejettent à fond des PFAS à la production ou au recyclage. Sur un territoire qui mériterait qu'on prenne un peu soin, enfin qui a assez donné, c'est
enfin
bon. Ouais, est-ce qu'on peut, s'il y a une merde à poser, pourquoi c'est chez nous? Est-ce que vous ne voudriez pas aller un peu en Ardèche, s'il vous plaît? Nous c'est bon, enfin non, je dis une bêtise, mais il faut que, enfin, on nous remette de la merde sur la merde, quoi.
C'est un peu ce que disent les gens du Nord-Cotentin qui commencent à trouver que
ouais, ça fait beaucoup,
un petit peu trop chez
nous. Ouais, voilà.
Oui, juste une précision, tu as dit PFAS très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est des produits qui ne sont pas recyclables. Et je vais encore, ce matin, j'ai lu, alors je ne sais pas aussi quelle étude qui est faite, je n'ai pas eu le temps de bien regarder, mais il y a une inquiétude qui monte énormément parmi les gens sérieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés par... qu'ils disent que ça risque d'être extrêmement grave dans les années qui viennent par rapport à ce qu'on va découvrir parce qu'on en trouve dans plein de choses. Hein.
Ouais, jusque dans les nappes phréatiques en fait. Là, il y a à peu près un tiers par exemple des puits de captage dans la région Nord-Pas-de-Calais qui sont impropres à la consommation normalement si on devait respecter les seuils. Fin. Et on va en rajouter. Fin. Et donc cette décarbonation, cette transition, c'est une transition vers le tout électrique, comme si c'était, comme si le CO2, on ne parle que du CO2 en plus.
Ah ouais, il faudra qu'on l'invite, Manu.
Ouais. Enfin, et des fois je dis, bah, putain, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce que ça permet de faire passer tellement de choses. Et donc je me retrouve avec des gens très sympas, aux Amis de la Terre, ou je sais pas quoi, ou chez, dans la région. On est dans le même comité anti-nucléaire local, parce que donc il y a forcément il y a deux réacteurs qui arrivent à Gravelines supplémentaires.
Deux EPR2.
Parce qu'il va falloir alimenter tout ça quand même. On est dans le même comité anti-nucléaire régional, on essaye de faire des trucs tant bien que mal. Et avec eux, il est impossible de discuter de la transition. Là, je leur ai envoyé le bouquin, je leur ai envoyé le truc. Mais faites-moi venir à Dunkerque. On fait, on fait un débat, on fait un truc. Enfin, on parle du nucléaire et on parle aussi de pourquoi il faut ces usines. Et il n'y a pas moyen, ils ont cuté complètement. Complètement. Et je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis stupéfait. Les bras m'en tombent. Je ne comprends pas.
Mais c'est des gens qui sont dans des groupes locaux écolos, qui sont liés au vert directement.
Je sais pas trop. Les Amis de la Terre ou Extinction Rebellion ou Alternative. Enfin, je sais pas tout ce truc un peu associatif, quand même plus ou moins lié de près ou de loin au vert. Enfin, et c'est impossible de leur faire tenir un propos critique de la transition et.
Tout est là dans la transition. Quoi vers quoi, je ne sais pas.
Il y a un projet éolien en mer, en face de Dunkerque, énorme, comme si Dunkerque, il n'y en avait déjà pas assez. Pareil, il y aurait plein d'arguments. Enfin, je veux dire, ils ont tout saboté, ils vont même saboter l'horizon, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien. Et ça, c'est pareil, ils ne peuvent pas entendre que... Imaginez qu'on va faire la transition avec du 100% renouvelable, c'est complètement délirant. Il y a une usine d'aluminium juste à côté de Dunkerque, à elle seule, elle prend un réacteur. À elle seule. Et là, ils vont nous mettre je sais pas combien de gigafactories. Alors imaginez que c'est avec 45 éoliennes ou je sais pas quoi qu'on va faire tourner tout ça. C'est complètement délirant. Enfin, ça tient pas debout. Et je sais pas, ils entretiennent ça.
Mais tu n'arrives pas, par exemple, à des trucs simples, à discuter avec eux. À travers l'échange précis qu'on a, ça resitue un peu, malheureusement, ce qui est un peu global en France et ailleurs. Mais ils ne s'interrogent pas sur cette quantité d'énergie globalement, que ce soit par ça qui est en train de monter absolument. Enfin, ça a toujours été ça dans l'histoire, mais maintenant, ça va de plus en plus vite. Non, on ne sait pas, ça peut... Non, du moment que ça va être des éoliennes qui vont fournir ça, on peut y aller, quoi.
Ouais, c'est...
Moi, j'ai vécu la période des années 70 où, quand, pour lancer le nucléaire, par exemple, il y avait une pub tout électrique, tout nucléaire, quoi. Les deux étaient complètement liés. Ouais. Alors, bon, c'est même pire que ça maintenant, c'est pas lié qu'au nucléaire, il y a plein de choses, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Que t'arrives pas avec des individus normaux qui se veulent écolos, discuter avec eux un peu. Ça, je comprends pas. Enfin, non, franchement.
Je sais pas, il y a l'argument de l'emploi. Bon, pour eux, c'est la transition, là. C'est l'argument de la transition.
Non, transition pour d'autres, ça veut dire quoi d'abord, transition? Tiens, comment tu traduis ça, toi?
La transition, c'est le passage au tout électrique, quoi. C'est le passage au tout électrique. Nucléaire et renouvelable.
Non, mais qu'est-ce qu'ils disent, la transition? Elle va vers quoi avec ça, leur transition?
Officiellement, ou les écolos
Les écolos, officiellement. Non, mais à la limite, je ne sais pas, en fait. Parce que moi, je vois apparaître des grands mots comme ça d'un seul coup. Ça répond à tout, mais en fait, qu'est-ce qui définit ça?
C'est un nouveau mot, un peu, je ne sais pas, ça a remplacé développement durable, quoi. On avait développement durable.
Oui, c'est ça.
Le terme est un peu tombé en désuétude, on s'est quand même bien foutu de ce
truc. Oui, il fallait trouver un autre mot, quoi, qui était moins...
Ouais, bon. Voilà, maintenant c'est transition, transition juste, transition douce, transition inclusive.
Durable, pourquoi?
Il n'y a pas de conflit, on va passer d'un truc à un autre, et voilà, tout en douceur. On va aller vers le paradis terrestre qu'on nous a promis depuis... Mais cette fois, c'est sûr. Maintenant, c'est...
Ah oui, mais non. En France, il n'y a plus de roi depuis la Révolution. Ah oui, mais non. Monsieur le juge a acquitté les politiques qui avaient détourné, bon an, mal an, tout plein d'euros, d'argent public, frais et dispo. Surtout, ne vous étonnez pas, comprenez bien, c'est comme ça. Ni escroc ni voleur parmi les amis du roi. Ah oui, mais non. En France, il n'y a plus de roi depuis la Révolution. Fini les privilèges, pour tous l'égalité. Et aboli le crime de lèse-majesté. Monsieur le baron de la télé a un passe-droit pour sa villa, construite en zone protégée, protégée par une loi. Ne soyez pas effaré, ne vous offusquez surtout pas, il peut tout bétonner, monsieur est un ami du roi. Ah oui, mais non. En France, il n'y a plus de roi depuis la Révolution. Nous sommes tous égaux, en devoir et en droit. Fini les privilèges, ou alors juste un doigt. Et ce grand ponte capitaliste, faux exilé fiscal notoire, ne craint pas les foudres du fisc, il s'engorge dans son fumoir, en crachotant son barreau de chaise, offert par le ministre d'État, pendant que l'impôt file à l'anglaise, monsieur est un ami du roi. Ah oui.
Et savoir pourquoi, mais il va y avoir de plus en plus d'usines consommatrices d'électricité, et d'usines productrices d'électricité à peu près qui vont arriver à peu près en même temps, c'est assez bien fait. Donc effectivement, il y a un projet de deux EPR à Gravelines, en plus des 6 premiers. Et 2 autres à Penly aussi, c'est pas si loin, en fait, en Seine-Maritime, donc c'est même juste à côté. Donc ça fait 4 EPR, là, tout de suite.
Un EPR, c'est combien ? 1200 mégawatts ?
Ouais, voilà. Ouais,
enfin, sachant que le premier, il n'est encore jamais arrivé à faire ça.
Je crois que c'est 600...
Peut-être 1600.
Ah, ça peut monter à 1600.
Je crois que c'est ce qui est prévu. Il n'est jamais atteint, mais bon.
Ah ouais.
Étant donné que à Dunkerque, par exemple, oui, vous avez une entreprise d'aluminium qui consomme déjà un réacteur. Enfin, il y a déjà des usines, comment ils disent, électro-intensives, qui à elles seules prennent, voilà, une demi-tranche. Enfin voilà. Et donc plus ces gigafactories, effectivement, il va y avoir une demande d'électricité énorme. Donc RTE commence. EDF et RTE commencent déjà un peu à s'en inquiéter. Ils sont là à la va-vite en train de remettre des lignes à très haute tension, de raccorder au réseau, voilà, parce qu'en fait effectivement ça arrive. En fait, les usines de qui vont consommer l'électricité arrivent plus vite que les EPR. Donc effectivement là c'était un petit peu la panique.
C'est pas surprenant parce que les EPR c'est
quand même... ça prend du temps. Et même c'est vrai, apparemment plus de temps que prévu quoi. Et donc pour revenir au sujet qui était le nôtre, celui de la transition, ce que je trouvais fabuleux, c'était donc effectivement cet unanimisme autour de la transition. C'est même plus que l'unanimisme, c'est un engouement qui est général. Donc à la fois pour l'emploi, du côté syndical, on attend cette décarbonation et ces investissements, et du côté environnementaliste, écologiste, enfin je sais pas trop, on l'attend aussi. Étant donné que cette transition est supposée...
Sauver le climat.
Sauver le climat, quoi. Et ce qu'on se disait un peu là dans la pause, c'est que, en fait, tout ce mouvement, il est rendu possible du fait de la faiblesse, aujourd'hui, de la critique anti-nucléaire, quoi. Ce qui est super étonnant, puisque c'était quand même fondateur de l'écologie, enfin, il y avait quand même dans les années 70, lutter contre l'électrofascisme, ou je sais pas, c'était la base, enfin, c'était un modèle de société, c'était ça, le nucléaire, enfin, pour moi, c'est...
Société nucléaire, société autoritaire, hein, moi j'ai défilé...
Société policière, société militaire, enfin, et le nucléaire, pour moi, la critique anti-nucléaire, c'est un peu à part par rapport, enfin, il y a tout. Il y a toute la critique sociale, il y a plein de sujets super intéressants, et puis il y a quand même le nucléaire. Enfin, c'est quand même autre chose. Ça va au-delà de tout, quoi. Pour moi, ça résume ça résume et révèle, comme disait l'autre, l'ensemble de la société, quoi. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement qui est par définition autoritaire et fasciste, enfin quasiment. Enfin, c'est dominé par des hauts technocrates qui sont couverts par le secret militaire, et c'est un fonctionnement qui ne peut pas être démocratisé, enfin par sa dangerosité, par tout ce que ça implique au niveau militaire, enfin. Et en fait ça ouvre tellement de questions que ça remet pour moi en cause toute la société, enfin c'est l'abondance énergétique, c'est la toute puissance, c'est l'apocalypse écologique, guerrière, enfin je sais pas, ça renvoie à un imaginaire ultime, quoi, définitif, enfin bref. Et pourtant c'est une critique nucléaire qui n'existe plus, et c'est vrai qu'on parlait un peu des jeunes générations puisqu'on a tous ici quand même un certain âge, mais pour qui, effectivement, il faut bien admettre, moi, la dernière manif anti-nucléaire que j'ai faite, je sais plus, c'était à Rouen, je crois, ou à Caen, je sais plus.
À Rouen, le 12 octobre.
Ouais, voilà, enfin, ouais. Quand même, c'est vrai que, bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes, on se disait. Alors, je sais pas ce qui a fait ça, on parle de Jean Covici qui a fait beaucoup de mal, le mouvement climat qui a été quand même un peu piloté, drivé par des acteurs de la transition.
L'arrivée des Verts aussi.
Et en fait, c'est vrai que cette transition, elle n'est possible que si il y a plus de critique anti-nucléaire. Et c'est vrai que les quelques anti-nucléaires qui restent, enfin officiels, ou les discours un peu anti-nucléaires qui restent, ils vont vachement être sur ouais, mais c'est pas une réponse au climat. Ou attention, il y a des risques, par exemple, ça rejette tel et tel. Je sais pas comment dire, c'est pris par un bout qui est toujours très spécialisé ou très technique, et jamais sur le gouvernement comme mode de gouvernement, le nucléaire comme mode de gouvernement, comme mode de gouvernement autoritaire dans son essence, quoi. Et bon, c'est peut-être ça qui est un peu dommage et qui fait que qui fait que c'est plus une évidence pour le mouvement écologiste aujourd'hui et les jeunes et qui sont dans tous ces mouvements. Et donc voilà, c'est cette transition que j'aborde par ce biais-là, par le biais du renforcement du nucléaire, aujourd'hui elle rencontre aucun écho, quoi, absolument aucun écho. Et il y en a un autre, c'est qui est conjoint et au nucléaire, mais aussi plus au renouvelable et aux batteries, c'est le développement dont on a parlé, de la société numérique, quoi. Qui pareil, a un côté autoritaire, puisque, avec la décentralisation de l'énergie, avec la décentralisation des moyens de production de l'énergie, c'est-à-dire on peut tous avoir une petite éolienne chez soi, on peut avoir
un panneau solaire,
etc. Et de fait, il va y avoir plein d'usines de solaires, éoliennes, etc. Avec la décentralisation du stockage de l'énergie, puisqu'on va tous avoir des batteries de voitures électriques, le contrôle du méga système énergétique français va nécessiter un contrôle très très fin, quoi, en fait.
Linky, ça peut servir entre autres.
Et le Linky, en fait, voilà, il s'est développé. Aujourd'hui, il trouve son avec les batteries de voitures électriques et le développement un peu du photovoltaïque personnel, il trouve là absolument son intérêt, puisque il calcule en temps réel et il renvoie en temps réel la consommation et la production, quoi.
D'électricité. Et en plus, il peut couper quand il veut.
Il peut couper quand il veut. Voilà.
Là où il veut.
Tout à fait. Et donc, ce que j'explique un petit peu dans le bouquin, c'est que l'idéal, la technologie idéale de batterie, c'est que la batterie, elle peut se recharger, mais elle peut aussi balancer de l'électricité dans le réseau. Par exemple, n'importe qui arrive chez lui à 18h30, 19h, se branche, pensant recharger. En fait, le résidu, selon les besoins évalué par RTE, l'électricité va partir dans le réseau et la voiture va se recharger que vers 23h, minuit, 1h. Enfin. Voilà. Et donc il y a aussi un développement forcément du contrôle cybernétique de la société, quoi. Ça, c'est un autre point de vue qui n'est pas strictement environnementale, quoi, et qui est importante à avoir et sur laquelle, c'est pareil, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne sur ce volet-là. Par exemple, moi, il m'est arrivé de dire du mal, je suis désolé, de la Quadrature du Net, qui a fait beaucoup des campagnes sur la cyberpolice, sur les aspects les plus policiers de la cybernétique, sur l'IA, etc. Mais il y a tout un aspect du développement numérique qui, pour eux, est positif. Enfin,
ou
acceptable, et notamment une fois on s'était retrouvé dans une réunion au Technopolis à leur poser la question de Linky, et chez eux c'est tabou, quoi. À Linky on peut pas poser parce que au sein de leur association on n'est pas certain de savoir ce qu'il faut en penser, enfin, et il y a plein de trucs comme ça sur lesquels ils ont pas été très clairs, enfin. Et la critique du nucléaire, la critique du numérique aujourd'hui sont, enfin, que moi je mets.
Vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.